Chapitre 9. Ce même mardi, Monin se rendit chez les Tilliers. Elle, qui n'avait pas encore eu l'occasion de voir la Villa Louise, fut impressionnée par ses dimensions imposantes et son opulence bourgeoise. Avant de venir, elle avait téléphoné pour s'assurer que Jean Tillier s'y trouvait. C'est Rebecca qui lui avait répondu. Elle lui avait dit que son mari n'irait pas à l'imprimerie afin de l'aider dans les préparatifs de l'enterrement de Barbara prévu jeudi. Effectivement, Monin, guidé par un domestique qui semblait aussi âgé que la maison, le trouva dans la salle à manger, une grande pièce située à gauche dans le hall, entre le bureau de Tillier et le petit salon où le meurtre avait eu lieu. Tillier et son épouse étaient occupés à dresser une liste de noms, sans doute pour les faire part, pensa Monin. Tous deux avaient le visage chiffonné des gens qui n'ont pas dormi. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions séparément, dit Monin après s'être présenté. Les deux époux échangèrent un long regard. « Oui, bien sûr, » finit par dire Tillier en se levant brusquement. « Venez, nous allons passer dans mon bureau. » Il précéda Monin dans la pièce où Preux, juste après le meurtre, avait mené les premiers interrogatoires deux jours auparavant. Après l'avoir invité à s'asseoir, il se mit à parler sans attendre qu'elle l'interroge, comme la veille quand Monin l'avait vu à l'usine. « Je sais pourquoi vous revenez. Mon absence d'alibi vous déplaît. Moi-même, je me rends compte que ma présence dans la maison et mes déplacements à l'étage, sans aucun témoin, au moment de l'assassinat de Barbara jouent contre moi. Mais ce que je vous ai dit hier est la stricte vérité. Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher, » conclut-il en élevant la voix et en toisant Monin d'un air de défi. Ses yeux clignaient derrière les grosses lunettes d'écaille et son menton tremblait, sans que Monin sût si c'était d'indignation, de lassitude ou de peur. « Je suis venu pour l'anneau en or. » Il pâlit, bourdouilla. « Quoi ? Quoi ? L'anneau en or ? On a trouvé un anneau en or dans la robe de Barbara. Est-ce vous qui le lui avez donné ?» Il ne répondit pas, baissa la tête. Il respirait bruyamment, et un instant, Monin crut qu'il avait un malaise. « Oui, » finit-il par dire d'une voix rauque, « il vient de moi. » Il souffla encore plusieurs fois comme un phoque, puis ajouta. C'est juste un cadeau d'anniversaire un peu plus personnel que la Clio que Rebecca et moi avons offerte à Barbara pour ses 30 ans. Monin, qui n'avait jamais roulé que dans des voitures d'occasion proches de la casse, se dit qu'elle aimerait se voir offrir des cadeaux aussi peu personnels qu'une Clio neuve. Cependant, elle chassa rapidement cette pensée teintée de rancœur sociale pour se concentrer sur l'interrogatoire de Tillier. Reconnaissez que ce type de cadeau à une belle sœur n'est pas ordinaire. Elle eut envie d'ajouter. « Avez-vous offert la même chose pour l'anniversaire de Georgette Lecoeur ?» Mais presque aussitôt, elle eut honte de cette ironie facile. Elle demanda simplement. « Aviez-vous une liaison avec Mademoiselle Roussel ?» Jean Tillier se leva à moitié, indigné. « Absolument pas. Qu'allez-vous imaginer là ? C'était la sœur de ma femme, quand même. » Monin avait l'impression que pour lui, l'argument était imparable. « Justement, votre épouse était-elle au courant pour l'anneau ?» De nouveau, Tillier perdut de sa superbe. Il se laissa retomber dans son fauteuil. « Non, » dit-il dans un murmure. Il n'ajouta rien, restant les yeux baissés, le visage rouge, comme étranglé soudain par son nœud de cravate. Monin fut touché par le spectacle de ce patron puissant, cet homme de 50 ans qui n'osait pas avouer qu'il était tombé amoureux. Chez les Tilliers, le père Gaston, pourtant connu dans tout l'île pour ses nombreuses aventures, ne devait pas badiner avec l'éducation de ses enfants. Et voilà le résultat. Son fils était écrasé de culpabilité. « Arrête de faire de la psychologie à deux sous, se dit-elle, et reviens-en au problème. » Elle se força à raisonner. L'aveu pour l'anneau faisait-il pour autant de Tillier le coupable ? Qu'il fût amoureux de Barbara, c'était certain. Qu'il ait couché ensemble, Monin n'en était pas persuadé et était tenté d'accorder crédit aux dénégations outrées de Tillier. D'abord, la jeune fille pouvait très bien ne pas être attirée par lui. Et quand bien même elle l'aurait été, il y avait entre eux Rebecca. Était-il prêt à trahir cette dernière ? Monin en doutait. Lui, à cause de son éducation rigide, elle, parce que tous les témoignages la disaient très liée à sa sœur. De toute façon, liaison ou pas, Tillier en pinçait pour Barbara. Pourquoi l'aurait-il assassinée ? Monin avait du mal à saisir le mobile. Bien sûr, il aurait pu être jaloux, mais de qui ? De Callot ? Difficile à croire. Barbara, si on en croyait Mélanie Fougaille, tenait ce dernier en piètre estime et ne s'en cachait pas. Quant à cet étudiant avec qui elle correspondait sur le web et que ses collègues interrogeaient au même moment, son nom n'avait été mentionné dans aucun interrogatoire, comme si personne ne le connaissait. Sans doute Barbara tenait-elle à garder son existence secrète. Tillier l'avait-il appris d'une manière ou d'une autre? Justement, devant son silence, celui-ci avait relevé la tête et la fixait d'un air anxieux. Le nom de Damien Restoux évoque-t-il quelque chose pour vous? Il parut sincèrement surpris. Hier Claude Gauvin, aujourd'hui Damien Restoux. Décidément, vous aimez jouer aux devinettes. Damien Restoux, non, je ne vois pas. Qui est-ce? Monin eut un geste évasif. Une relation de Barbara. Et tandis qu'il la regardait d'un air étonné, elle pensait que, s'il avait été jaloux de Callot ou de Restoux, en admettant qu'il connût ce dernier, Tillier s'en serait peut-être pris à eux, mais pas à Barbara. Restait une violente dispute, pour une raison inconnue. Les timides comme Tillier, qui n'osent pas avouer leurs sentiments, peuvent avoir de brusques accès de colère. Elle en avait vu défiler assez dans les locaux de la PJ, hébétés après leur soudain passage à la violence, pour le savoir. Je vous remercie, monsieur Tillier. Ce sera tout pour le moment. Je voudrais maintenant interroger votre épouse. En se levant, il lui jeta un regard implorant. Elle comprit qu'il avait peur qu'elle parle de l'anneau à Rebecca. Elle détourna la tête. L'enquête était prioritaire, même si elle provoquait des dégâts humains. Quelques secondes après la sortie de son mari, Rebecca Tillier entra dans le bureau après un bref coup frappé à la porte. Monin, qui ne l'avait encore jamais vue, fut surprise, comme Preux, Claire Louvier et bien d'autres sans doute avant elle, de la ressemblance avec sa sœur. Rebecca s'assit très droite sur le bord de la chaise, comme si elle était en visite. Elle semblait tendue et méfiante. Madame Tillier, je vous remercie de bien vouloir répondre, comme votre mari précédemment, à quelques questions qui pourront nous aider dans notre enquête. Elle fit un petit signe de tête accompagné d'un sourire crispé qui pouvait marquer aussi bien l'assentiment que l'agacement. Si bien que Monin entra sans plus de circonlocution dans le vif du sujet. Vous avez déclaré à mon collègue qu'à la suite de votre malaise, vous êtes monté dans votre chambre, soutenu par votre belle-sœur. Celle-ci nous l'a confirmé, ainsi que le fait qu'elle est restée à votre chevet jusqu'au cri de Mademoiselle Fougaille. À un moment, votre mari est passé prendre de vos nouvelles. Est-ce exact? Ma belle-sœur l'a certifié, me semble-t-il. Certainement, mais j'aurais voulu avoir confirmation de ce fait par vous. Si vous croyez ma belle-sœur pour ce qui me concerne, pourquoi ne pas la croire en ce qui concerne mon mari? La voix était légèrement ironique. Elle poursuivit. Comme ma belle-sœur a dû vous le dire, arrivée dans la chambre, je me suis étendue sur mon lit. Tout tournait autour de moi. Un ami médecin qui figurait parmi les invités est arrivé, a diagnostiqué un coup de chaleur et m'a mis un linge frais sur le front. Cela m'a fait du bien. Je me suis endormie. En toute honnêteté, je n'ai donc pas entendu mon mari. Mais encore une fois, le témoignage de ma belle-sœur ne suffit-il pas? Au demeurant, tout cela, je l'ai déjà dit à votre collègue hier. Monin feignit ne pas avoir entendu ce reproche implicite. On a retrouvé dans une poche de la robe de votre sœur un anneau en or. Votre mari vient de reconnaître que c'est lui qui le lui avait donné comme cadeau d'anniversaire. Étiez-vous au courant? Si Rebecca était troublée, elle n'en laissait rien voir. Après quelques secondes, elle répondit: Non. Mais quelle importance? Comme Monin ne disait rien, elle reprit. Je sais ce que vous devez penser, mais il n'y avait pas de liaison entre Barbara et Jean, et je suis sûr des sentiments de mon mari à mon égard. Il n'y avait aucune fierté, aucun triomphalisme dans la voix. Elle parlait calmement, comme si elle énonçait une évidence. Monin revint ensuite sur la personnalité de Barbara et les conditions de la garden party, mais Rebecca redit à peu de choses près ce qu'elle avait confié à Preux. C'est pourquoi, tout en restant perplexe sur l'état exact des relations entre Tillier et sa femme et sa belle-sœur, Monin quitta la villa Gaston en ayant presque le sentiment d'avoir perdu son temps. Ce mardi après-midi, Preux, qui avait pris rendez-vous, se présenta au lycée technique et professionnel Notre-Dame-d'Annay, place du Concert dans le Vieux-Lille. On le conduisit directement dans le bureau de la directrice, une femme d'une cinquantaine d'années à l'allure énergique. Je ne suis à la tête de cet établissement que depuis 5 ans, dit-elle après avoir serré la main de Preux. Je ne pourrai donc vous être fort utile, Mais voici Mademoiselle Beaulieu, professeure de français, qui enseignait déjà ici quand cette jeune fille. Elle jeta un rapide coup d'œil au dossier placé devant elle. Barbara Roussel est passée chez nous. Elle avait désigné une femme toute menue, d'environ 50 ans elle aussi, qui se tenait respectueusement debout derrière elle et qui, à l'énoncé de son nom, serra à son tour la main de Preux en lui adressant un franc sourire. Ses yeux pétillants donnaient à sa personne une impression d'intelligence et de gaieté. Eh bien, je vous laisse ensemble. Tenez, voici le dossier scolaire de Barbara, dit-elle en tendant à Preux, avant de sortir, une mince chemise de couleur crème, fermée par une grosse sangle blanche. Dès qu'ils furent seuls, Madame Beaulieu ne se fit pas prier pour parler de Barbara. Depuis que j'enseigne, j'ai vu passer beaucoup d'élèves, mais je n'ai pas eu à consulter son dossier. Elle fit un signe de tête en direction de la chemise que Preux tenait en main. Pour me souvenir de Mademoiselle Roussel. C'était une jeune fille très attachante. Oh, assurément, elle n'était pas très forte, que ce soit dans les disciplines techniques comme la dactylographie ou dans les matières générales comme la mienne. Mais elle avait envie de bien faire, à la différence d'élèves plus doués qui se fichaient perdument du cours. En tout cas, elle avait du mérite, car sa situation familiale était difficile. Ses parents étaient décédés, sa sœur qu'il aimait beaucoup l'hébergeait travaillait. De ce fait, elle se trouvait souvent livrée à elle-même. Elle était très sensible aux encouragements, au climat de confiance qui peut ou non s'instaurer, si bien que mes collègues et moi avons donné beaucoup de nous-mêmes pour qu'elle obtienne le BEP. Hélas, dans le deuxième semestre de la deuxième année, elle était dépassée et ne venait plus en cours que sporadiquement. Elle réfléchit un instant, les yeux dans le vague, fouillant ses souvenirs. Je crois qu'elle était essentiellement velléitaire. Elle fit une nouvelle pause. J'étais très affecté quand j'ai lu la nouvelle de sa disparition hier dans le journal. Encore une qu'il aimait bien, se dit Preux après avoir remercié Madame Beaulieu. Dans sa voiture, il ouvrit le dossier scolaire. Les avis des professeurs se recoupaient. Malgré les faibles notes de Barbara, ces derniers se montraient étonnamment indulgents dans leur appréciation. Décidément, on n'en sortait pas. Quelqu'un l'avait pourtant bien assassiné. De leur côté, après leur visite à Damien Restoux et un rapide passage à la PJ, Boulanger et Lemayeux se rendirent à l'agence de publicité de Georges Callot. Malgré une plaque impressionnante, Public Conseil n'occupait que 2 pièces dans un immeuble d'affaires impersonnel au bout du boulevard Vauban. Auparavant, les deux policiers avaient pris leur renseignement. L'agence existait depuis 5 ans. Callot l'avait fondée avec un camarade de promotion de l'école supérieure de commerce de Lille, là où il avait fait ses études. Il s'avérait que les parents des deux jeunes gens avaient largement contribué financièrement au lancement. D'une manière générale, Georges Callot l'avait toujours eu facile. Il était le fils unique d'un important avocat d'affaires. Après sa sortie de l'ESC où il n'avait obtenu le diplôme que de justesse, il était entré dans une entreprise d'électroménager, mais il n'y était resté que 8 mois. Boulanger avait réussi à apprendre qu'il y avait commis des malversations. Grâce à l'influence de son père, un arrangement avait été trouvé et l'affaire n'était pas allée devant la justice. Après 2 autres emplois à peine plus longs, il avait créé son entreprise, cette agence de publicité qui vivotait, notamment grâce à des clients envoyés par son père. Cette fois-ci, Callot fit moins le faro. Il avoua rapidement que la dispute entre Barbara et lui durant la réception portait bien sur l'obtention du marché publicitaire de l'imprimerie Tillier. Il avait appris que le contrat actuel allait arriver à son terme et il avait insisté auprès de Barbara pour qu'elle recommande Public Conseil à son beau-frère. Il admit aussi, sans trop se faire prier, que cette commande, portant sur un budget important, aurait bien soulagé sa société. On aurait dit que, dans les 24 heures séparant ces deux interrogatoires, il avait réalisé qu'il avait le profil idéal de l'assassin. Un mobile, une occasion et pas d'alibi. Sur ce dernier point, à l'entendre, il s'était creusé la cervelle pour essayer de trouver quelqu'un qui pût attester qu'il se trouvait à Lille au moment du meurtre. Finalement, il s'était rappelé avoir acheté une glace à un stand de viennoiserie rue de Béthune. Peut-être la jeune fille qu'il avait servie se souvient-elle de lui. Bien qu'il n'en crût pas un mot, Lemayeux nota l'adresse. Les deux policiers passèrent ensuite du temps à essayer de lui faire préciser l'heure de son départ de la Villa Louise, et à l'aide d'un plan, le trajet qu'il avait suivi pour rentrer chez lui, un appartement rue Faidherbe. Dans les deux cas, malgré une volonté certaine de coopérer, il resta approximatif, arguant du fait que, ruminant la colère et le dépit causés par l'attitude de Barbara, il n'avait pas fait attention ni à l'heure ni à l'itinéraire suivi. En revenant à pied au SRPJ, Boulanger et Lemayeux étaient d'avis opposés. Pour ce dernier, c'était l'assassin. Malgré son profil bas d'aujourd'hui, l'homme était hypocrite et son alibi fumeux. Boulanger, quant à lui, restait plus circonspect. On avait tendance à en faire le coupable parce que le personnage était antipathique et qu'on n'avait rien de mieux en ce moment. Mais on n'avait aucune preuve contre lui. Tous deux en arrivèrent à la même conclusion, somme toute décevante. Il fallait le garder à l'œil tout en essayant, comme pour Restoux, de trouver des éléments concrets à charge ou à décharge, sans négliger pour autant les autres voies. Le mercredi matin amena une activité de routine. On vérifiait tout azimut. Et une fois de plus, les policiers étaient confrontés aux troubles de la mémoire des témoins. Ceux-ci hésitaient, se contredisaient entre eux, ou, plus grave, se contredisaient eux-mêmes par rapport à leur première déposition, compensaient leur absence de souvenirs par des inventions, bref, ils manquaient sacrément de fiabilité. Souvent, ils étaient de bonne foi, mais pas toujours. Ainsi, Monin interrogea tour à tour les deux serveurs du buffet de devant pour savoir si Georgette Lecœur se trouvait bien à 16h05, comme elle l'affirmait, sur le devant de la maison à ranger les badges. L'un prétendait qu'elle y était, l'autre non. Monin les réunit et leur demanda comment, alors qu'ils étaient côte à côte derrière le buffet, ils pouvaient être d'avis si opposés. Après des silences gênés, des formules alambiquées, la vérité se fit jour. Un peu après 15h30, profitant d'un creux dans la demande, ils avaient carrément abandonné leur poste pour aller retrouver leurs collègues de derrière et discuter avec eux. Évidemment, ils avaient dit n'importe quoi pour masquer leur faute. Au-delà, c'est l'alibi de Georgette Lecœur qui devenait invérifiable. De leur côté, munis chacun d'une photo de Georges Callot et de Damien Restoux, demandés aux intéressés lors de leur interrogatoire, Boulanger, Lemayeux et d'autres policiers appelés en renfort se rendirent sur le lieu de travail ou au domicile des invités. À chaque fois, ils présentaient les deux photos et cherchaient à savoir pour Callot si le témoin l'avait vu quittant la réception vers 15h30 ou au contraire présent dans la villa après 7h. Pour Damien Restoux, tout simplement s'il l'avait aperçu à un moment quelconque durant la réception. Pour Callot, cela ne déboucha sur rien. Au mieux, les invités se souvenaient de lui au moment de la dispute. Après, ils n'étaient plus sûrs de rien. Bien entendu, les enquêteurs eurent droit au pire. Certains étaient prêts à jurer qu'il s'agissait d'un serveur, d'autres d'un des deux employés de l'imprimerie préposés au badge, à l'entrée. Pour Restoux, le travail de fourmi finit par payer. En fin de matinée, après plusieurs visites infructueuses, et alors qu'il arrivait à la fin de la liste d'invités à interroger, un jeune brigadier auxiliaire tomba sur un cadre de l'usine à la retraite qui reconnut formellement Restoux comme le malappris qu'il avait violemment heurté au début de la réception, alors qu'il tenait une coupe de champagne et qui s'était éclipsé en marmonnant de vagues excuses. Devant l'air circonspect du policier, il appela sa femme d'une voix autoritaire. « Yvette, viens voir !» Presque instantanément, une femme menue qui portait un tablier de cuisine surgit. Tout en regardant anxieusement son époux, elle s'essuyait fébrilement les mains dans un torchon. « Yvette, reprit le mari sur un ton agacé, laisse donc ce torchon et viens ici. Regarde cette photo que monsieur de la police est venu nous montrer, et dis si tu reconnais cet individu. » Il regardait maintenant le brigadier d'un air qui semblait vouloir dire « Vous allez voir ce que vous allez voir. » La femme dont le trouble s'était accentué au mot de police, comme si on venait l'arrêter, elle, prit craintivement la photo et, après avoir semblé quitter l'approbation du policier qui hocha la tête, y jeta un bref coup d'œil. On dirait bien le jeune homme qui t'a bousculé dimanche. Ah, vous voyez bien que je n'invente pas, poursuivit le mari sur un ton triomphant. Grâce à ce type, j'ai eu mon costume trempé de champagne. Alors vous pensez si je me souviens de lui. De retour à la PJ, le jeune brigadier prévint Boulanger qui décida d'organiser l'après-midi même une confrontation entre le couple et Damien Restoux. Quant à Preux, il n'échappait pas lui non plus au fastidieux travail de vérification. Il se rendit tout d'abord au stand de viennoiserie de la rue de Béthune où Callot, allant croire, aurait acheté une glace le dimanche en revenant de chez les Tilliers. L'employé qui avait peut-être servi Callot ne travaillait que l'après-midi. Elle prendrait son service à 14h. En attendant, Preux, après lui avoir téléphoné, alla rendre visite à Georgette Lecœur avec les photos que Claire Louvier lui avait remises. Si quelqu'un connaissait la majorité des invités, c'était elle. Il la trouva tout excitée à l'idée de jouer la détective. Pendant près de 2 heures, patiemment, ils s'échinèrent à mettre un nom sur tous les personnages des photos. Elle identifiait, lui cochait le nom sur la liste des invités. Les visages pris dans des scènes de groupe étaient petits et parfois flous, ce qui rendait le travail difficile. Finalement, il en resta 3, 2 hommes et une femme, que Georgette Lecœur ne remettait absolument pas. Était-ce des amis personnels de Barbara ou de Rebecca, ou des parasites qui se seraient glissés dans la réception? Elle n'aurait su le dire. Preux se promit de demander l'aide de Rebecca et de Mélanie Fougaille pour tenter d'identifier ces derniers visages. Une chose était sûre, aucun des deux hommes qui restaient n'était Damien Restoux. La confrontation entre ce dernier et le couple de retraités eut lieu à 15 h à la PJ. Quand l'étudiant arriva, Boulanger et Monin lui demandèrent de se placer derrière la glace sans teint d'usage, dans une rangée de 6 policiers, qu'ils avaient sélectionnés pour leur plus ou moins grande ressemblance avec Restoux. Chacun tenait devant lui un carton avec un numéro. Restoux reçut le 5. Puis on introduisit de l'autre côté de la glace successivement les deux retraités, à qui on avait expliqué préalablement ce qu'ils devaient faire. L'homme désigna immédiatement Restoux. Son épouse, après avoir hésité un moment entre le 2 et le 5, finit par faire de même. La suite tourna au dialogue de sourds. Mis en présence de Restoux, le cadre en retraite et sa femme confirmèrent leur déclaration du matin. De son côté, l'étudiant nia s'être trouvé dans le parc de la ville. Le ton monta vite. On se traita de menteur, d'affabulateur. Monin et Boulanger durent s'interposer entre les deux hommes, qui auraient fini par échanger des coups. On emmena le couple dans une pièce où on lui fit remplir et signer une nouvelle déposition. Boulanger et Monin se chargèrent de Restoux, à qui ils firent subir un interrogatoire serré. Au bout d'une heure, il reconnut être entré dans le parc de la Villa Louise, poussé par l'envie de s'expliquer avec Barbara. Il avait évité la séance de badge et s'était mis à la recherche de la jeune femme. Sans badge, ayant l'impression de détonner dans cette assemblée guindée, il était devenu encore plus nerveux après l'incident du champagne. Finalement, il avait vu Barbara de loin, très entourée, et désespérant de la rencontrer en tête à tête, avait quitté la réception. Les policiers, encouragés par cet aveu, insistèrent. Pourquoi mentir encore? Il comprenait qu'il lui était difficile de confesser être resté, à pouvoir guetter Barbara, avoir profité du moment où elle allait seule chercher les photos pour la rejoindre dans le petit salon. Mais parler lui ferait du bien et soulagerait sa conscience. Mais ils eurent beau alterner compréhension et menace, lui montrer l'absurdité d'une attitude d'enfermement, rien n'y fit. Il n'en démordit pas. Certes, il était bien entré dans la villa, mais il en était ressorti 30 minutes plus tard et surtout, il aurait été incapable de tuer Barbara qui l'aimait. En fin d'après-midi, Boulanger ouvrit une procédure de garde à vue et on le mit en cellule. Au demeurant, les policiers étaient divisés à son égard. Seul Monin le tenait fermement pour le coupable. Boulanger était plus réservé. Le Mailleux, quant à lui, pensait que c'était Callot le meurtrier. Et le fait que la vendeuse de glace, que Preux avait pu finalement interroger, ne se souvenait pas l'avoir servi, le renforçait dans cette conviction. Preux enfin doutait lui aussi de la culpabilité de Restoux. De retour à la PJ, mis au courant du mensonge, puis de l'aveu partiel de ce dernier, il était allé voir à quoi elle ressemblait, puis était revenu l'air fermé, lâchant simplement qu'à son avis on se trompait. De toute façon, on n'avait aucune preuve matérielle. Il faudrait reprendre l'interrogatoire de Restoux, en espérant des aveux complets avant la fin de la garde à vue. Parallèlement, on perquisitionnerait chez lui, à la recherche de l'arme du crime. Sur ce, comme il était déjà tard, chacun rentra chez soi. Ils eurent tous du mal à s'endormir, supputant à l'infini la culpabilité de Restoux. Quant à ce dernier, il resta assis toute la nuit sur sa couchette, l'œil grand ouvert, perdu dans d'insondables pensées.